Chères retraitantes, donc les choses sérieuses vont commencer. Donc nous allons vous donner régulièrement quelques instructions, comme vous le savez, les plus anciennes, vous le savez. Le but un petit peu de ces instructions, c'est tout simplement vous rappeler peut-être quelques vérités que vous auriez pu oublier. Et puis surtout, ensuite, à partir de ces vérités, bien les méditer. Donc la retraite est faite pour cela. Les méditer dans le silence, dans la prière, la chapelle, devant le Saint-Sacrement, pour ensuite voir tous les fruits que vous pouvez en tirer pour votre vie spirituelle, pour votre vie particulière. Donc ne croyez pas que nous allons vous donner un digest, c'est-à-dire que chacun, un mode d'emploi universel, bon pour tous, non. C'est un petit peu chacune d'entre vous devant le bon Dieu. Ensuite, c'est à vous de méditer, de voir bien, quelles sont les choses qu'il faut changer, améliorer dans votre vie et en tirer les fruits. Alors, ce matin, donc la première instruction, comme on vous l'a annoncé, eh bien, nous commençons par contempler Dieu, tout simplement. Nous allons essayer de vous parler du bon Dieu. Vaste sujet. On pourrait tout simplement commencer en disant, bien, pourquoi êtes-vous venus ici? Bon, je ne vous demanderai pas la réponse. Oh, parce qu'on m'a obligé, parce que j'ai perdu un pari, donc je ne sais pas quoi. Ou alors j'avais besoin d'une semaine de vacances, enfin bon. Mais au moins, vous pourriez toutes dire pourquoi je suis ici. Je ne pense pas que vous êtes arrivé ici vraiment par hasard. Hier soir, vous avez vu de la lumière et vous êtes rentré. Non, je ne crois pas. Il y a une raison, sans doute très variée chez chacune d'entre vous, mais il y a un but. C'est-à-dire que nous agissons tous pour un but. Eh bien, ensuite, cette question, on peut la poser un peu plus loin en disant non seulement pourquoi je suis ici, pourquoi je suis ici, tout simplement pourquoi je suis sur la terre. Et puis vous connaissez ensuite pourquoi, vous savez, quand on est enfant, on se pose la question pourquoi, les parents, et ça suffit parce que c'est comme ça. Mais toutes ces questions, inévitablement, vont nous ramener à Dieu. Et ainsi, on peut dire, bien oui, vous êtes venus ici parce que vous vouliez faire une retraite de vie chrétienne, bah, tout simplement parce que vous avez Dieu en vous, en vue. Mais ensuite, il se pose la question, mais Dieu, d'accord, on connaît, on y croit en général, mais quelle place a-t-il dans votre vie? Alors là, ça commence déjà à devenir un peu plus compliqué. Est-ce que vous l'aimez? Évidemment, j'entends tout la réponse, oui. Est-ce que vous le connaissez? Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile. C'est un peu compliqué. Alors la question que je vais vous poser, mais dans ce cas-là, comment pouvez-vous aimer Dieu si vous ne le connaissez pas? Et oui, évidemment, parce que généralement, on aime quelqu'un, c'est parce qu'on le connaît. C'est évident. On aime ses parents parce qu'on les connaît, on a vécu avec eux. On aime, je sais pas quoi, son fiancé, son mari, parce que, on l'a connu. Je sais pas quoi, le petit chinois qui habite au numéro 36 de la place Tiananmen à Pékin, si vous l'aimez, non, pas vraiment, parce que, vous le connaissez pas. Donc, il en va un peu pareil de Dieu. Est-ce que Dieu, nous l'aimons, si nous le connaissons pas? On pourra difficilement peut-être l'aimer, ou alors ce sera peut-être un amour très superficiel. Donc, le but de notre vie spirituelle, tout simplement, c'est de chercher Dieu. Là aussi, rappelez-vous votre catéchisme. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu, obtenir ainsi la vie éternelle. Donc, nous verrons d'abord dans une première partie, Dieu nous est connu, comment nous connaissons Dieu. Et puis ensuite, nous tâcherons de voir ce qu'on appelle les perfections divines, Dieu, ses perfections. Puis évidemment, quels fruits nous pourrons retirer ensuite en conclusion de cette recherche de Dieu. Dieu existe, mais vous avez sans doute entendu, alors peut-être les plus anciennes parmi vous, vous l'avez peut-être entendu, disons, de vive voix ou vu dans les journaux à l'époque, un certain monsieur, au retour d'une mission un peu particulière, était revenu en disant, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. Alors pour mettre un mot là-dessus, c'était le fameux Gargarine, donc le premier homme qui a fait un tour de la Terre dans un satellite. Donc le premier homme qui est parti dans l'espace. Après maintenant, au niveau des dates, je crois, ça doit être dans les années 60, 61, 62, par là. Bon, donc certaines d'entre vous n'étaient pas encore de ce monde, d'autres l'étaient déjà. Donc c'est la première phrase qu'il a dû, qui avait dû sans doute été, lui a été dictée. Donc Gargarine, c'est un Russe. Évidemment, il était fier, il avait fait le tour de la Terre, et puis il était dit, ben voilà, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. Alors nous-mêmes, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons répondre à cela? Eh bien, Dieu, nous savons son existence de deux façons, par la révélation et par la raison. Tout ça, c'est l'Église qui nous le dit, surtout, vous avez le Concile Vatican Ier, donc en 1870, dans une constitution Dei Filius, qui précise bien la chose. La même Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Depuis la création du monde, ses perfections invisibles se laissent voir à l'intelligence par ses œuvres, nous dit Saint Paul. Donc, première chose, nous savons, Dieu, nous pouvons avec certitude connaître son existence par notre raison. Cependant, il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même au genre humain et de révéler les décrets éternels de sa volonté par une autre voie, surnaturelle celle-là. Dieu a parlé jadis à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. En ces jours les derniers, nous a parlé par son Fils. Saint Paul dans son Épître aux Hébreux. Donc vous voyez, le Concile nous dit bien, Concile Vatican Ier, on peut connaître Dieu de deux façons. Par notre intelligence et par la révélation, parce que Dieu a parlé, les deux façons. Un peu plus proche de nous, il vous est Pie XII, dans son encyclique Humanus Generis du 12 août 1950, qui nous répète aussi un peu la même chose. Bien que la raison humaine, en effet, a parlé simplement, puisse vraiment, par ses forces et sa lumière naturelle, arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes. Il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel. Car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles. Et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficultés de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. De là vient qu'en de telles matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Donc ça, c'est très bien dit. Donc vous voyez, en soi, notre raison peut tout à fait connaître l'existence de Dieu. Malheureusement, souvent, elle est aveuglée par nos passions, et nos passions ne voudraient pas que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existe pas, dans ce cas-là, on fait ce qu'on veut. Alors c'est pas tellement un problème d'intelligence, c'est plutôt un problème de volonté, de moralité. C'est pourquoi il faut dire que la révélation divine est moralement nécessaire pour que les vérités religieuses et morales, qui de soi ne sont pas inaccessibles à la raison, puissent être, dans l'état actuel du genre humain, connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Donc vous voyez, effectivement, notre intelligence peut bien connaître l'existence de Dieu, néanmoins Dieu a révélé son existence. Donc ce sont les deux façons, révélation et raison, par lesquelles nous connaissons l'existence de Dieu. Tout d'abord, rapidement, par la révélation, c'est-à-dire Dieu s'est révélé, c'est-à-dire Dieu nous a appris lui-même son existence dans la révélation qu'il a faite aux hommes depuis Adam. Bien sûr, il s'est révélé à Adam et Ève, c'est clair, mais ensuite il l'a fait aussi. Vous avez une façon, nous en reviendrons parce que c'est une apparition très importante. C'est l'apparition que Dieu fait à Moïse. Donc vous connaissez dans le buisson ardent, ça vous connaissez je pense votre au moins cet épisode. Donc Moïse qui a fui l'Égypte et qui s'est retiré donc dans le désert du Sinaï, qui vit avec son beau-père et puis qui garde les troupeaux. Et puis un beau jour, eh bien en gardant ses troupeaux, il voit un buisson qui flambe. Bon, c'est rien d'extraordinaire. Seulement le problème, c'est que le buisson, il a beau flamber, mais il existe toujours. Donc il ne se consume pas. Alors là, ça l'intrigue un peu plus, évidemment. Donc l'intriguant un peu plus, eh bien il s'approche et puis de là vient une voix qui lui demande de dire attention, ce lieu est saint. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Donc Dieu se manifeste à lui. Alors, bref, Dieu va lui dire d'aller délivrer son peuple. Et puis à la fin, Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Etc. Tu parleras aux Israélites. Donc si vous voulez, Dieu se révèle à Moïse et lui dit son nom. « Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, celui qui existe. » Donc, révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent. Ensuite, évidemment, vous pouvez passer tout l'Ancien Testament, Dieu qui va parler à Abraham, à tous les patriarches, les révélations diverses et variées. Et puis dans le Nouveau Testament, évidemment, vous avez notre Seigneur lui-même qui va dire qu'il est Dieu, non seulement qui va le dire, mais qui va le prouver par tous ses miracles, par sa prédication, par ses prophéties, qui va nous révéler la Sainte Trinité, etc. Donc vous voyez vraiment, Dieu a dit qu'il existait, ça c'est vrai. Ainsi, donc, la foi nous fait connaître l'existence de Dieu. Par notre foi, nous croyons en l'existence de Dieu. La foi que nous avons reçue, je pense pour la plupart d'entre nous, le jour de notre baptême. Donc, cette foi qui est cette vertu, ce qui nous fait croire toutes les vérités que Jésus-Christ nous a révélées. Donc, pour nous, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Oui, par la révélation, Dieu nous a révélé son existence. Maintenant, la question se pose, mais ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui n'ont jamais reçu la foi, ou qui n'ont pas été baptisés, ou qui peut-être l'ont perdu, mais en tout cas, par exemple, ceux qui ne l'ont jamais eu, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors, vous avez saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 1er, versets 19 et suivants. Voilà ce qu'il dit à propos des païens. Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Son éternelle puissance et sa divinité en sorte qu'ils sont inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'étant ténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Donc, vous voyez, saint Paul est sévère. Il dit, les païens, ils se sont mis à adorer des serpents, des animaux de toutes sortes. Eh bien, ils sont inexcusables. Parce que, à partir des œuvres de Dieu, on peut connaître l'existence de Dieu. D'où, effectivement, nous pouvons connaître l'existence de Dieu par notre raison, par la raison. Et ça aussi, c'est un dogme de foi. Donc, c'est important, surtout dans notre période un peu subjectiviste, de bien se rappeler que nous pouvons connaître l'existence de Dieu par la raison à la vue des choses créées. C'est quelque chose de très simple. Si vous voyez en vous promenant dans un bois, vous voyez dans la boue des traces, des traces de chiens, ben vous allez dire, il y a un chien qui est passé par là. Ou alors, tiens, ça c'est des traces de biche, mais il y a une biche qui est passée par là. Bon, je pense pas que vous ayez déjà vu des traces de lion, autrement vous seriez peut-être inquiète. Ah, il y a un lion qui est passé par là. Mais on voit une trace tout de suite, on va induire qu'effectivement, il y a l'animal qui est passé par là. Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'existence de Dieu. À travers la création, nous voyons qu'elle s'est pas faite toute seule et qu'il y a bien sûr un Dieu qui l'a faite. Alors, prouver l'existence de Dieu par la raison, vous avez plusieurs façons. Vous avez ce qu'on appelle les preuves métaphysiques avec saint Thomas, les cinq voies de saint Thomas. Bon, juste rapidement, par exemple, que Dieu est le premier moteur immobile. C'est que nous constatons le mouvement dans la création. Quoi que vous voyez, effectivement, vous voyez que tout, il y a un mouvement qui existe et tout mouvement, toute chose est mue par une autre, etc. Et forcément, si vous remontez, eh bien, il va falloir à un moment s'arrêter. Se dire, bah, il y a forcément un premier moteur qui a mu toutes les choses, mais qui lui-même est immobile. Et en remontant ainsi, ce premier moteur immobile, eh bien, c'est Dieu. Donc voilà une des raisons. C'est-à-dire, je ne puis me mouvoir qu'en lui. Donc il doit être le principe et le but de toutes nos actions. Aussi, une autre preuve, c'est Dieu est la cause première de tous les êtres. Tout effet est produit par une cause. Et ainsi, quand vous voyez un effet, bah, vous allez rechercher la cause, et ainsi de suite, quelle est la première cause. Et pareil, il arrive un moment où on doit s'arrêter un jour. On dit, bah, quel est celui qui est la cause de toute chose? Autrement, on va tomber dans l'absurde. C'est la fameuse question de la poule et l'œuf. Quel est premier, la poule ou l'œuf? Bah, l'œuf. Bah non, mais s'il y a l'œuf, il faut bien qu'il y ait une poule. Ah bah alors la poule. Mais s'il y a une poule, il a bien fallu qu'elle vienne d'un œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? Bah, si vous continuez comme ça, vous tombez dans l'absurdité. Il a bien fallu qu'à un moment, il y ait une création. Donc on remonte à la cause première, hein, qui est Dieu. Bon, c'est très succinct parce que je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas un cours de métaphysique que je vous fais, hein, non plus. Une autre chose aussi, à notre voie de saint Thomas, c'est Dieu est l'être nécessaire. On voit dans le monde des êtres contingents, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas nécessaires, qui ont pu ne pas exister un jour, comme nous-mêmes, comme les animaux, etc. Et cela, ben, qu'est-ce qui nous fait tenir l'existence? Eh bien, il faut bien admettre qu'il y a un être nécessaire, qui ne peut pas ne pas être, et qui, justement, est la source de tous les êtres contingents. Bon, donc vous voyez, par là même, avec ces preuves qu'on appelle métaphysiques, on peut arriver à l'être nécessaire, à Dieu. Vous avez une autre preuve plus facile, qui est tirée de l'ordre du monde. On prend ce raisonnement en disant tout ordre, donc vous voyez toutes les choses en ordre, est l'œuvre d'une cause intelligente. Effectivement, c'est facile à prouver. Vous demandez, je sais pas, à votre petit chat favori ou à votre chien de ranger ses affaires, ça ne sera pas vraiment ça. Vous ne voyez pas le chat remettre ses affaires en ordre, etc. Déjà, il faut se battre pour les enfants, pour faire ranger leur chambre. Mais, donc, en soi, tout ordre est l'œuvre d'une cause intelligente. Or, il y a dans le monde un ordre admirable. Vous regardez le monde autour de vous et vous voyez qu'il règne un ordre admirable. Tout est régi par des lois. Effectivement, que ce soit, je sais pas, la façon pour un oiseau de faire son nid, par exemple, bah, vous voyez, ils le font tous de la même manière. Donc, il y a un ordre admirable. Vous voyez, cet ordre des saisons, etc. Donc, on constate qu'il y a effectivement dans le monde un ordre admirable. Donc, conclusion, l'ordre du monde suppose une cause intelligente. Et cette cause intelligente, eh bien, c'est Dieu, évidemment. Regardez toutes les lois physiques qui règnent aussi dans le monde céleste, par exemple. Ce monde des étoiles, c'est merveilleux. Bah, il y a un ordre rigoureux de lois physiques. S'il n'y avait pas d'ordre là-dedans, c'est fini, hein, c'est la fin du monde, la preuve. C'est la fin du monde. Je vais vous citer quelqu'un qui n'est pas vraiment un père de l'Église et qui disait cette vérité de manière admirable. Il s'appelait Voltaire. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Bah oui, même lui qui n'est vraiment pas un saint, hein. Bah lui, il constate, si vous voulez, il comparait l'univers à une horloge. Et comme on dit à chacune de nos montres, il faut un horloger, eh bien, au monde tel qu'il est, qui marche comme une horloge, il faut un horloger qui est Dieu, tout simplement. Alors évidemment, si tout cela peut vous paraître un peu compliqué, je crois chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, à la vue de la nature, nous sommes remontés vers Dieu. Je ne sais pas ce que vous préférez, il y en a qui préfèrent la montagne, les neiges éternelles, vous montez sur les sommets, vous gravissez les rochers, les falaises, etc. Et bon, la majesté d'une montagne, effectivement, peut vous faire penser à Dieu, c'est sûr. Peut-être certaines d'entre vous préfèrent la mer. La mer, bien, sur la plage, vous marchez, vous voyez la mer, vous voyez la mer et le ciel qui à un moment ne font plus qu'un, et bien tout de suite, ça vous parle de l'infini. L'infini, ben oui, tout de suite, on remonte vers l'auteur. Donc, si vous voulez, tout nous parle de Dieu. Il a laissé un petit peu dans cette nature ses traces de créateur. Alors bien sûr, je pense que vous l'êtes, mais soyez convaincus de l'existence de Dieu. Donc vous voyez, même à des païens aujourd'hui qui n'ont peut-être eu aucune instruction, même sur un plan purement naturel, on peut leur prouver l'existence de Dieu. Donc le Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré, évidemment, c'est un beau sophisme. Je ne l'ai jamais rencontré de manière sensible, évidemment. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Mais encore une fois, les athées, je veux dire vraiment les athées proprement dits, c'est-à-dire qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, sont vraiment en petit nombre. Quelqu'un qui soit athée de bonne foi, il y en a vraiment peu. Ça peut arriver, celui qui n'a eu pas d'instruction. Mais je pense que, étant de bonne foi, on peut très facilement arriver à l'existence de Dieu. Mais plus souvent, comme je vous l'ai dit au départ, ce sont souvent des obstacles d'ordre moral qui élèvent un petit peu un mur entre Dieu et l'homme. Parce que les passions obscurcissent notre raison, notre intelligence. Et nos passions, ben, dans ce cas-là, redoutent être gênées dans leur libre exercice par la présence de Dieu. Ou tout simplement par le simple aveu de son existence. Alors dans ce cas-là, on dit non, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Comme ça, on essaie de se faire une petite vie tranquille. Mais ceux qui nient l'existence de Dieu, souvent, en réalité, c'est plus un problème moral qu'un problème intellectuel. Donc, après avoir établi l'existence de Dieu, évidemment, eh bien, il nous faut chercher à dire qui il est, à le connaître un peu mieux. Souvent, Mgr Lefebvre en a parlé de cette existence de Dieu, surtout la connaissance de Dieu. Dans son petit livre qui est son testament spirituel qui s'appelle Itinéraire spirituel, il a quelques lignes justement sur les perfections de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Notre connaissance de Dieu est bien imparfaite ici-bas, et elle le sera encore au ciel, car il faudrait être Dieu pour le connaître dans toute sa perfection et son être. C'est le cas des trois personnes divines. Une approche d'une meilleure connaissance de Dieu consiste à nier de lui toutes les limites des créatures, qui nous servent d'ailleurs à prouver l'existence de Dieu. En effet, on va commencer à nier toutes les imperfections. Ainsi, donc, de Dieu, nous nions toute imperfection. Dieu est parfait. On va se dire, en Dieu, il n'y a pas d'imperfection, donc Dieu est parfait. Nous nions toute limite. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a pas de limite, donc il est infini. Nous nions toute limite dans l'espace. Donc Dieu n'est pas limité par l'espace, il est donc partout omniprésent. Nous nions toute limite dans le temps, il est éternel. Nous nions toute mutation, il est immuable. Donc voilà un petit peu comment nous allons procéder, en niant bien les limites que nous voyons dans le monde. Nous avons un persineux, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui justement introduit aussi comment nous pouvons connaître Dieu. Dieu existe. Cette première vérité ne fait qu'enflammer notre désir de connaître cet être suprême, duquel tout dépend, et dont nous soupçonnons l'éblouissante beauté. Saint Thomas, enfant, surpris dans une sorte d'extase en face de la nature ravissante, posait tout à coup à son maître la question « Qu'est-ce que Dieu ?» Ça devait être un prodige, parce que, ayant été quelques années dans une école, j'ai jamais vu un enfant en extase me dire « Qu'est-ce que Dieu ?» Mais bon, Saint Thomas était saint. Donc vous voyez, le petit, vous imaginez, le petit enfant, et il rêve, il pense à Dieu, il médite sur Dieu, et il demande à ses maîtres « Qu'est-ce que Dieu ?» Dieu lui-même répond « Je suis celui qui suis. Celui qui est, c'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir de génération en génération. La raison humaine, en démontrant l'existence de Dieu, découvre en lui l'être subsistant par lui-même. Premier moteur immobile, cause première que rien ne produit ni ne modifie, être nécessaire qui ne peut pas ne pas exister, être parfait qui ne connaît aucune limitation, ordonnateur suprême qui ne dépend d'aucun autre. Dieu est au-dessus de tout être. Il ne rentre dans aucune catégorie. Il n'appartient à aucun genre. Il constitue un être absolument à part, non seulement par sa nature supérieure, mais encore par sa manière d'exister et de subsister, manière unique et transcendante. Quelle prérogative implique cette notion d'être subsistant par lui-même ? Tout évidemment se résume et s'identifie dans la perfection infinie. Dieu est l'être parfait. Mais cette perfection trop vaste pour nos intelligences, nous essayons du moins d'en considérer séparément quelques aspects, sans vouloir en briser l'unité. Comme l'unique lumière passant par le prisme détaille les couleurs qui la font ce qu'elle est, l'indivisible perfection divine passant par l'intelligence humaine se prête à une étude morcelée et nous livre un à un ce qu'on appelle les attributs de Dieu, les perfections divines. Donc si vous voulez, pour notre intelligence, nous sommes un petit peu obligés de morceler Dieu pour essayer de connaître un petit peu quelques-unes de ses perfections, mais il faut bien se dire que tout en lui se résume dans l'être subsistant. Et justement, avant cela, avant de parler de ces quelques perfections, quelques-unes qui peuvent nous aider ensuite pour notre vie spirituelle, il est bon quand même de dire quelques mots de cette perfection absolue de Dieu, Dieu qui est l'être subsistant. Alors on l'appelle d'un nom un peu barbare peut-être pour vous, c'est ce qu'on appelle la propriété de l'aséité. Alors attention, L'aséité. Ça vient du latin A-C. L'aséité, L'aséité. C'est un mot qui est calqué, qui vient directement du latin. Si vous regardez le petit Larousse ou le petit Robert, vous ne le trouverez pas, évidemment. Cette propriété, c'est celle qui appartient à Dieu seul, qu'il existe par soi, par lui-même. Ens ase. Donc ça veut dire qu'il a la plénitude de l'être. Contrairement à nous, les créatures, qui tenons notre existence de Dieu. Et donc nous sommes des êtres imparfaits. Personne d'entre nous, nous nous sommes donné l'existence. Ah non, nous la tenons de nos parents. Nos parents qui nous ont donné l'existence. Eh bien Dieu, non. Il tient son existence par lui-même. Il est l'être subsistant par lui-même. Et c'est justement ce que veut dire cette réponse un peu bizarre qu'on ne comprend pas forcément de Dieu à Moïse. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis celui qui existe. Ma raison d'être, si vous voulez, c'est d'exister. J'existe. Comment vous définir ? Ben, appelez-moi celui qui est. Ce que veut dire Yahvé. Je suis celui qui est, tout simplement. Vous avez aussi, notre Seigneur va le dire la même chose aux Juifs. Ça, c'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, versets 5 et suivants. Donc, les Juifs vont lui demander, « Vous n'avez pas encore 50 ans et vous avez vu Abraham ?» Jésus leur répondit, En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Notre Seigneur dit exactement la même chose. Et la suite de l'évangile, les Juifs vont prendre des pierres pour le lapider, parce que ils reconnaissent qu'en disant cela, notre Seigneur se considère comme Dieu. Alors Monseigneur Lefebvre commente un petit peu. On n'admirera jamais assez ces réponses lumineuses, qui correspondent d'ailleurs aux conclusions de notre raison. Dieu est. Il est ens asse, l'être par lui-même. Tous les autres êtres sont ab alio, non pas leur raison d'être par eux-mêmes. Ces affirmations simples sont une source de méditation et de sanctification inépuisable. Que ce soit le regard sur Dieu qui s'épuise dans l'infini, que ce soit la constatation des rapports de la créature au Créateur, ou la vue du néant de la créature, nous sommes en face de ce qu'il y a de plus vrai, de plus profond et de plus mystérieux en Dieu et en nous. Effectivement. Donc ça veut dire, si Dieu est par lui-même, moi, je n'existe que par un autre. C'est-à-dire, j'ai mon être par quelqu'un d'autre. Je suis incapable de subsister par moi-même. Ça veut dire que je dépends totalement de Dieu. Je dépends totalement de Dieu, de l'être divin. Il y a, je sais pas, disons 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90, je pense que c'est bon, 90 ans, personne d'entre nous n'existions. Nous n'existions pas. Nous étions, si vous voulez, comme on dit, dans la pensée de Dieu, mais sur cette terre, personne ne pensait à nous. Nous n'existions pas. Et dans, je sais pas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans, c'est sûr, nous ne serons plus ici-bas. Nous aurons passé. Donc, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Et justement, en méditant devant cette acéité de Dieu, c'est Dieu qui existe par lui-même, qui lui existe, et que nous ne sommes rien, vous voyez les conséquences que nous allons en tirer. Des conséquences de l'humilité, entre autres. Et en même temps, si nous sommes encore en train d'exister, c'est que Dieu nous maintient dans l'être. Il nous maintient dans l'existence. Comme on dit un petit peu familièrement, si Dieu arrêtait de penser à nous, comme dit quelqu'un, nous ne serons rien. Même pas un tas de poussière. Même pas un tas de poussière. On pourrait dire, oh, moi, je suis un peu une poussière. Non, rien. Nous serions de nouveau dans le néant. Le néant, c'est-à-dire ce qui n'existe pas. Et Dieu, d'ailleurs, le disait à Sainte Catherine de Sienne. « Sais-tu, ma fille, ce que tu es, ce que je suis ? Tu es celle qui n'est pas, et moi, je suis celui qui est. » Belle révélation à Sainte Catherine de Sienne. Effectivement, tu es celle qui n'est pas, et moi, je suis celui qui est. Quelle leçon d'humilité. Leçon d'humilité pour nous, et en même temps, leçon d'amour, en montrant que cet être absolu, Dieu, nous a fait venir à l'existence. Et oui, il a permis que nous existions. Nous le verrons pourquoi, bien évidemment, pour un jour partager son bonheur. Alors, je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser régulièrement. Et quand on peut être tenté, par exemple, vraiment juste un exemple, de coquetterie ou de vanité, quand on se regarde dans le miroir pour essayer de se trouver belle, eh bien, disons-nous, je ne suis rien. Dieu est tout. Moi, je ne suis rien. Ce que j'admire, c'est un tas de poussière qui un jour sera véritablement poussière. Il y a quelques années, je n'existais pas. Dans quelques années, je serai dans un tombeau. Eh oui, il faut revenir à ces grandes vérités. Se dire, maintenant, vous, mon Dieu, vous existez tout à fait. Et voilà que moi, petite poussière, j'essaie de me prendre pour quelqu'un de bien. J'essaie d'être quelqu'un de bien, j'essaie de faire qu'on m'admire, etc. Mais mon Dieu, que suis-je ? Que suis-je ? Voilà, cette propriété essentielle de Dieu, d'être l'être par excellence. Et notre fondateur, celles qui l'ont connu, Mgr Lefebvre, même si vous avez pu écouter plusieurs de ses sermons, ou moi-même des conférences qu'il faisait aux séminaristes ou même aux prêtres, eh bien souvent on revenait souvent sur cette vérité essentielle, que nous ne sommes que des ens abalios, c'est-à-dire des êtres créés. Nous sommes qu'une créature. Dieu, lui, est le créateur, il a l'être. Et donc, nous sommes dépendants. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui qui veut être indépendant, Monseigneur Lefebvre, combien de fois il insistait, nous sommes des êtres dépendants. Dépendants de Dieu. Dépendants de sa loi. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne sommes pas libres. Notre liberté est faite pour le bien, pour nous mener à Dieu. Etc. Donc, vous voyez, on peut en tirer d'innombrables conclusions, bon, qu'on tirera au fur et à mesure dans la retraite, mais ça, c'est vraiment le dogme de base sur cette existence de Dieu. Donc, à partir de cette propriété essentielle de Dieu, eh bien, nous pouvons en tirer quelques-unes, quelques autres. Bien sûr, la simplicité. Dieu est une substance tout à fait simple. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a aucune composition. Évidemment, s'il est l'être par excellence, il n'y a pas de composition, il n'y a pas d'âme et de corps en Dieu. Dieu est souverainement simple. Et d'ailleurs, notre Seigneur le disait à la Samaritaine, Saint Jean chapitre 4, ce beau discours entre notre Seigneur et la Samaritaine. Il dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit, c'est-à-dire pur esprit, c'est-à-dire simple. Donc si Dieu est souverainement simple, eh bien nous-mêmes, nous devons nous efforcer de pratiquer eh bien cette simplicité, cette pureté d'intention qui va nous faire tendre directement à Dieu, sans aucun retour désordonné sur nous-mêmes. Évidemment. C'est-à-dire quand nous commençons à nous regarder nous-mêmes, c'est là que nous commençons à devenir compliqués. Parce que nous sommes compliqués. Au contraire, si nous contemplons Dieu, eh bien, nous deviendrons de plus en plus simples. Et c'est effectivement souvent une des qualités que nous voyons dans des saints. C'est-à-dire que c'est arriver à tout unifier. Et pour cela, eh bien, effectivement, c'est en méditant les grandes vérités. Finalement, on revient à Dieu, tout simplement, à Dieu simple. Et plus autrement, on commence à descendre dans les détails, eh bien, plus ça se complique, plus on se perd, plus donc on perd le calme, etc. Bien sûr, je mets une parenthèse, tout ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son devoir d'État, attention, c'est évident. Mais même en faisant son devoir d'État, où il faut s'occuper des choses très concrètes hein, qu'il faut faire, c'est évident, mais on peut garder quand même un esprit tout à fait simple. On unifie tous et on revoit tout sous le regard de Dieu. Donc, avoir cette simplicité de Dieu, cette pureté d'intention. Une autre facette, si on peut ainsi parler, de Dieu, pour essayer de le connaître, pour essayer de voir comment monter vers lui, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'immutabilité. C'est-à-dire, immutabilité, Dieu ne peut pas changer. Dieu n'est sujet à aucun changement. Pourquoi? Parce que changer, c'est acquérir ou perdre quelque chose. Quand on change, c'est-à-dire, ou on perd quelque chose qu'on avait, donc on se transforme, où on acquiert quelque chose qu'on n'avait pas. Donc là aussi, on se transforme. Donc ça, le fait de changer, ben c'est une source, disons, ça montre qu'on n'est pas infini, qu'on n'est pas parfait, parce qu'il nous manquait quelque chose. Donc ça voudrait dire que si Dieu, lui, changeait, ça voudrait dire qu'il ne serait pas infini. Donc en Dieu, il ne peut pas changer. Et ça, il y a multiples conséquences. Bon, ne serait-ce que dans la situation dans laquelle nous vivons, où on veut faire croire que ce qui était, disons, mauvais autrefois est bon aujourd'hui, et vice-versa, ce qui était bon autrefois est mauvais aujourd'hui, surtout dans les vérités, dans la morale. C'est absurde. C'est absurde parce que Dieu ne change pas. ce qui était intrinsèquement mauvais il y a 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, sera toujours intrinsèquement mauvais aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas changer, autrement il serait imparfait. Et donc cette immutabilité de Dieu bien, va nous aider, nous, à pratiquer, un petit peu au milieu de toutes ces vicissitudes humaines, eh bien, ce calme si nécessaire à l'union intime et durable avec Dieu. Là aussi, retrouver un petit peu ce calme. Et là, je pense, c'est un des fruits de la retraite. On s'éclipse, on quitte un petit peu toutes nos activités quotidiennes pour retrouver ce calme et pour participer à cette immutabilité divine. Et là, justement, pour nous rapprocher de Dieu, pour grandir dans cette union intime avec le bon Dieu. Et donc ensuite, après cette retraite, ben, vous serez plus forte, justement, pour continuer votre vie, parce que vous serez unis à Dieu immuable. Donc, grande propriété, cette immutabilité de Dieu. Une autre perfection divine, aussi importante, difficile à comprendre, l'éternité. Dieu est éternel. Lui-même le dit dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui sera. » Donc on le dit au moins les premiers mots, à la veillée pascale, quand le prêtre grave alpha et oméga, princeps et finis, quand on trace les lettres sur le cierge pascal. Oui, l'éternité découle de l'immutabilité. Pourquoi ? Parce que ce qui est immuable n'a pas de succession. En effet, il n'y a pas, si vous êtes immuable, si Dieu est immuable, il n'y a pas de succession, c'est-à-dire il n'y a pas à acquérir ou à perdre quelque chose. Et donc, par conséquent, il n'y a ni commencement ni fin, puisque Dieu est. Alors que le temps, justement, qu'est-ce que c'est que le temps ? Eh bien, c'est la composition de mouvements successifs. Le temps est composé de mouvements successifs. Les secondes après secondes, si vous voulez, les mouvements successifs. Or, à partir du moment où il n'y a pas cette succession, ces mouvements, eh bien, il n'y a pas de temps, donc c'est l'éternité. Là aussi, donc je le disais un peu ce matin, la Sainte Trinité, quand on a l'impression, le Père engendre son Fils et le Saint-Esprit possède du Père du Fils. Donc si on raisonne avec le temps, évidemment, on va mettre une infériorité et une supériorité en Dieu. On va dire que le Père est supérieur au Fils, si on met le temps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps. Justement, c'est l'unique instant présent. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à le concevoir. Parce que, ah oui, nous n'étions pas, nous sommes et nous ne serons pas, ou nous serons différemment dans un an, dans deux ans, etc. Alors qu'en Dieu, ça n'existe pas le temps. C'est l'unique instant. Dieu nous a créés dans le temps, oui. Mais ensuite, quand nous quitterons ce monde, eh bien, nous serons dans l'éternité. Donc on peut tout de suite comprendre, effectivement, que c'est dans l'instant où nous arriverons devant Dieu qui sera l'instant le plus important. Où nous serons amis de Dieu, où nous serons son ennemi. Et là, nous serons fixés. Ça ne pourra plus changer. Nous serons en état de grâce, nous serons l'ami de Dieu, alors nous serons fixés pour toujours dans cet état. Bon, on aura peut-être un petit détour, un petit crochet à faire au purgatoire, c'est possible. Mais après, même au purgatoire, nous sommes en état de grâce. Nous avons à nous purifier de nos fautes que nous n'aurons pas à s'expier sur cette terre, mais nous sommes en état de grâce. Donc, ce qui veut dire, nous sommes l'ami de Dieu. Les âmes du purgatoire sont les amis de Dieu. Donc, nous serons toujours avec Dieu. En revanche, évidemment, l'âme qui arrive en état d'inimitié avec Dieu, c'est-à-dire qui volontairement aura rejeté Dieu par sa vie, par ses actes mauvais, par ses péchés mortels, eh bien, elle va se trouver devant Dieu en état d'inimitié avec Dieu. Donc, automatiquement, l'âme partira, s'en ira de Dieu et sera fixée pour toujours dans cet état. Donc l'éternité qui découle de l'immutabilité de Dieu. Donc l'éternité pour nous, je pense qu'elle est conséquence pratique, bien doit nous détacher un petit peu de tout ce qui passe, en nous rappelant que tout ce qui n'est pas éternel n'est rien. Et ça c'est important. Souvent on se tracasse, même dans notre vie spirituelle, pour beaucoup de choses, mais qui n'en valent pas la peine. Parce que si on se dit, oui, un jour, qu'est-ce que c'est que par rapport à l'éternité? Je sais pas, ça peut être des souffrances physiques, ça peut être des souffrances même morales, ça peut être de grandes souffrances, hein, physiques ou morales. Mais c'est là où il faut se dire, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? C'était un peu, c'est comme ça que Saint Ignace a converti Saint François-Xavier. Saint Ignace qui était à Paris, Saint François-Xavier à l'époque, bon, qui n'était pas saint, qui était étudiant à Paris, qui menait la belle vie, enfin la belle vie, disons ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde la belle vie estudiantine, surtout à Paris. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, eh bien tous les soirs, il rentrait donc dans sa chambre et Saint Ignace, alors François-Xavier qui avait plein de projets, tu vas voir, je vais avoir mon diplôme et puis après j'aurai telle situation, telle carrière, etc. Et Saint Ignace ne disait rien, il lui disait la seule chose, quid ad eternitatem? Qu'est-ce que c'est que cela par rapport à l'éternité? Bon, et à force de se l'entendre répéter, une fois, deux fois, 10 fois, des centaines de fois, il a craqué. Dans le bon sens. Ah bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça par rapport à l'éternité? Donc là aussi, la contemplation de l'éternité peut beaucoup nous aider. Une autre perfection qu'on peut voir en Dieu, évidemment, l'immensité, immensité divine, c'est-à-dire que Dieu est partout. Il n'est pas limité par un lieu. Il est substantiellement en toute chose. Attention, ce qui ne veut pas dire que toute chose est Dieu. Si Dieu est en toute chose, ça ne veut pas dire que toute chose est Dieu. Donc attention de ne pas tomber dans le New Age, tous ces mouvements, le panthéisme, toutes ces vieilles erreurs qu'on trouve dans l'Antiquité reviennent aujourd'hui. Oui, ce qu'on appelle du New Age, c'est tout à fait ça. La déesse terre, espèce d'écologisme. Et bon, il y a un bon côté dans l'écologie, je suis tout à fait d'accord, qu'on essaye de ne pas violenter la nature, respecter la nature, quel que Dieu l'a faite, etc. Il y a un bon côté. Mais pas, disons, utilisé par certains, bon, je ne parle pas de mouvements politiques, évidemment, mais même par des gens qui aujourd'hui, cet écologisme devient une religion. Et ça se fond dans une espèce de New Age. Qui veut vous dire que oui, il faut pas violenter la nature parce qu'à la limite, la nature est Dieu, quoi. Tout est Dieu. C'est la déesse terre. Donc, on doit respecter la terre, on doit respecter la nature parce que il y a du divin dans la terre, etc. Donc ça, c'est absurde, évidemment. Mais ce qui veut dire que évidemment, Dieu est toute chose parce que comme on le disait tout à l'heure, Dieu nous maintient dans l'être, dans l'existence. Et saint Paul le disait aux Athéniens. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Petite information, ça veut dire que je me fais rappeler à l'ordre. Ça veut dire qu'il va bientôt falloir terminer. Mais bon. Non, ils sont gentils, comme ça ils nous rappellent que l'heure tourne. Alors, donc je disais que saint Paul nous disait, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc Dieu est partout. Et là, c'est le fondement de la présence de Dieu. Vous avez un merveilleux psaume que nous disons au vêpres du vendredi, le psaume 138. Très beau psaume, justement, sur la présence de Dieu partout. Seigneur, vous me sondez, vous me connaissez, que je me lève ou je m'assois, vous le savez. Vous percez de loin mes pensées, que je marche ou me couche, vous le savez. Mes chemins vous sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, vous la savez tout entière. Où irai-je loin de votre esprit? Où fuirai-je loin de votre face? Si j'escalade les cieux, vous êtes là. Au fond de la terre, je me couche, vous êtes là. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, votre main me conduit, votre droite me saisit. Je dirais que me pressent les ténèbres, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même les ténèbres n'est point ténèbres pour vous, et la nuit comme le jour illumine. Merveilleux psaume, très beau psaume. Effectivement, la présence de Dieu partout. Voilà, et on pourrait encore trouver beaucoup d'autres perfections divines. Je pense à la bonté, bien sûr. La bonté de Dieu qui est cette disposition qui le porte à se répandre et en même temps qui le rend attrayant. Donc la bonté de Dieu est sans limite, évidemment, parce que son être est infini et parfait. Vous avez aussi la justice et la miséricorde de Dieu. La justice qui consiste à accorder à chacun ce qui lui est dû. Dieu ne doit rien à personne. Il ne saurait donc jamais être injuste. Il répartit à son gré ses dons entre ses diverses créatures, sans que jamais aucune ait le droit d'exiger une supériorité, ni de se plaindre de l'inégalité. Attention, c'est pas juste, il a reçu, elle a reçu plus que moi, elle a reçu ça, elle est machin, elle est comme ça, moi je suis comme ça, c'est pas juste, j'ai tel défaut, elle l'a pas, etc. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu donne comme il lui plaît. Et c'est la parabole des talents. Il y en a qui reçoivent un, il y en a qui reçoivent deux, il y en a qui reçoivent cinq. Ben oui, c'est comme ça. Par contre, Dieu est juste. C'est-à-dire que celui qui aura reçu plus, il demandera plus. Celui à qui il a donné moins, il demandera moins. Mais quand sa libéralité a gratifié les créatures, à celles qui plus favorisées ont reçu des moyens d'action qu'elles peuvent librement mettre en œuvre, et des ressources qu'elles sont susceptibles de faire valoir, Dieu accorde en outre une sanction proportionnelle à leur mérite, évidemment. En cela, Dieu agit avec équité, il est souverainement juste. Sa perfection même et son amour du bien sont le fondement de ce nouvel attribut. La miséricorde est en Dieu inséparable de la justice, et elle en est la forme la plus délicate. La miséricorde est une bonté qui s'adresse aux malheureux, et plus spécialement encore aux ingrats et aux coupables. Elle est inspirée par la pitié et animée du désir de remédier au mal. En dernière analyse, elle procède encore de l'amour du bien. Elle est l'attribut de Dieu qui manifeste le mieux la bonté et la puissance divine. Dieu a mieux à faire que de s'attrister de nos souffrances, il les guérit, il tire le bien du mal, et la justice trouve dans la miséricorde son achèvement. Ça aussi, très consolant pour nous. Nous sommes pleins de misère, bien sûr le péché, tout ça, on en parlera évidemment, mais savoir que Dieu est miséricordieux. Bonté, miséricorde de Dieu. Dans le prophète Isaïe, au chapitre 49, verset 15, « Une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle a porté dans son sein? Et quand elle l'oublierait, je ne vous oublierai pas, dit le Seigneur. » Même si une mère pouvait oublier son enfant, eh bien moi je ne vous oublierai pas. Voilà donc un petit peu toutes ces perfections divines. En conclusion, eh bien comment acquérir cette connaissance affectueuse de Dieu? Donc comment essayer de connaître Dieu pour mieux l'aimer? On peut dire trois moyens principaux. D'abord l'étude pieuse des dogmes chrétiens, savoir... Ne vous contentez pas de l'instruction religieuse que vous avez reçue dans votre catéchisme, que vous avez reçue à l'école. Il faut continuer à l'alimenter, parce que ça s'oublie d'abord. Nous ne sommes pas des ordinateurs, donc on oublie. Donc ne faites pas en sortant de l'école un delete, et puis comme ça, tout est effacé. Non, non, il faut entretenir. Donc si on veut connaître Dieu, ben, il faut s'alimenter. Donc tout simplement, il y a des livres de doctrine pour pensionner évidemment au large, mais savoir... en lire, lecture spirituelle, etc. Deuxième moyen, la méditation ou l'oraison. Bien sûr, là, pendant cette retraite, on l'a fait. Si vous ne l'avez jamais fait, on vous apprend un petit peu à le faire en faisant cette méditation ensemble à la chapelle. Mais ensuite, c'est bien de poursuivre. Là aussi, on vous en parlera. Donc, méditer sur les attributs divins. Et puis, troisième moyen, bien l'habitude de voir Dieu en toutes choses. C'est-à-dire l'exercice de la présence de Dieu. Ça, c'est très important pour notre vie spirituelle. Dieu me voit, tout simplement, Dieu me voit. Il y avait cette image qui est très marquante et très bien vue dans la miche de pain. Donc, quand vous étiez petite, peut-être vos parents, votre maman vous faisait la miche de pain. Eh bien, il y a cette image qui est effectivement qui marque beaucoup les enfants. Une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Eh oui, sans lampe électrique. Alors ça, les enfants, bah oui. Toujours leur dire aux enfants, attention, tu fais une bêtise. Ah ouais, papa m'est pas là, maman me voit pas. Allez hop, je prends de la confiture en cachette. Eh bien, Dieu te voit. Ah! Ben oui. Nous aussi, donc, essayons d'avoir cette habitude de la présence de Dieu. Dieu me voit. Donc, sachons utiliser les créatures pour remonter à Dieu. Nous en avons parlé. Se rappeler que Dieu est tout près de ceux qu'il prie, évidemment. Donc, par des oraisons, des petites oraisons jaculatoires, on s'approche de Dieu. Et puis, rappelons-nous ce que je disais tout à l'heure à la messe, la Sainte Trinité habite en nous par l'état de grâce. Aussi, savoir rentrer en nous-mêmes pour y trouver Dieu. Et les avantages, les fruits de toutes ces pratiques, eh bien, va nous faire éviter, évidemment, avec soin, le péché. Puis, va stimuler un petit peu notre ardeur pour la perfection, tout sous le regard de Dieu. Et puis un dernier fruit justement de cette recherche de Dieu, de cette contemplation des perfections divines, eh bien ça va être la joie. Et là, je termine tout simplement en vous citant un passage de Don Marmion dans Le Christ idéal du moine, un petit passage justement sur cette joie que nous procure la recherche de Dieu. En trouvant Dieu, nous posséderons aussi la joie. Nous sommes faits pour le bonheur, pour être heureux. Notre cœur a une capacité d'infini. Mais il n'y a que Dieu seul qui puisse nous rassasier parfaitement. C'est pour vous, Seigneur, que vous nous avez créés et notre cœur vit dans le trouble jusqu'au jour où il trouve en vous son repos. Ça, c'est tiré de saint Augustin dans les Confessions. C'est pourquoi, quand nous cherchons quelque chose en dehors de Dieu ou de sa volonté, nous ne trouvons pas le bonheur stable et parfait. Par expérience, nous le savons, évidemment. Par le péché, on essaie de trouver une satisfaction qui nous laisse qu'un goût d'amertume. Des âmes trouvent, donc je passe un petit peu, d'autres âmes ne goûtent pas cette allégresse. Au fond et souvent à la surface, ces âmes sont troublées, inquiètes, malheureuses. D'où vient cette différence entre la joie de celles qui cherchent Dieu et les autres? C'est que les unes cherchent Dieu en toutes choses, et ne cherchant que lui, elles le trouvent partout, et avec lui le souverain bien et l'immuable félicité. Les autres, ou s'attachent à la créature, ou se recherchent elles-mêmes par égoïsme, amour-propre, légèreté. Mais aussi, est-ce elles-mêmes qu'elles trouvent, elles-mêmes, c'est-à-dire le néant. Et cette rencontre ne peut finalement les contenter, parce que l'âme créée pour Dieu a soif du bien parfait. De quoi êtes-vous rempli? Où se tournent naturellement vos pensées? C'est là votre trésor, c'est là qu'est votre cœur. Si c'est Dieu, vous êtes heureux. Si c'est quelque chose de mortel, que la rouille, que la corruption, que la mortalité consume sans cesse, votre trésor vous échappe et votre cœur demeure pauvre et épuisé. Voilà, maintenant nous allons nous rendre à la chapelle.